Bonjour, Félicien Kabouga a été arrêté à Paris. Cet homme était en cavale depuis 25 ans. Il est considéré comme le financier du génocide au Rwanda en 1994. Il est âgé aujourd'hui de 84 ans et vivait en France sous une fausse identité. Félicien Kabouga devrait être remis au mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux à La Haye. Il sera alors jugé pour crime contre l'humanité. La tendance à la baisse se poursuit, mais la triste barre des 9000 morts du coronavirus est dépassée en Belgique. On déplore 47 nouveaux décès au cours des 24 dernières heures, 65 nouvelles hospitalisations. 1750 personnes sont à l'hôpital à cause du virus, dont 364 en soins intensifs. Et cette tendance à la baisse va-t-elle se poursuivre? Et surtout, combien de temps? L'inquiétude se lit ce matin sur le visage de nombreux travailleurs dans les magasins. Le soleil est au rendez-vous et ils craignent que beaucoup de Belges ne sortent pour une virée shopping. Ce samedi est aussi le tout premier depuis la réouverture des magasins. Cela inquiète les travailleurs et les syndicats. Ils ont peur que la distance physique ne puisse être respectée. Des milliers de manifestants attendus dans les rues de grandes villes d'Allemagne aujourd'hui, des personnes venues de l'extrême droite, de l'ultra-gauche ou de mouvements conspirationnistes et qui protestent contre les restrictions prises pour lutter contre la pandémie de coronavirus, le port du masque dans les magasins ou les restrictions de mouvement. Rien qu'à Stuttgart, 5000 personnes ont été autorisées à battre le pavé malgré les interdictions en principe de grands rassemblements. Une bonne nouvelle pour le tourisme italien. Le pays va rouvrir ses frontières le 3 juin pour des habitants de l'Union européenne et de l'espace Schengen. Plus de quarantaine à l'arrivée non plus. Attention, cela ne veut pas dire qu'il faut se ruer sur les billets d'avion. Les frontières belges, elles restent bien fermées, sauf pour les déplacements essentiels. Les autorités italiennes ont aussi prévenu un retour en arrière est toujours possible en fonction de l'évolution de l'épidémie. Et puis en France, un bol d'air frais à la mer, au Mont-Saint-Michel ou à la campagne, c'est possible ce week-end, mais sous condition, ne pas se déplacer à plus de 100 km de chez soi tout en respectant les gestes barrières.
Retrouvez toute l'info sur rtbf.be.
Et tout de suite, vous retrouvez votre magazine transversal.
Demain à 9h,
les Belges du bout du monde,
avec Adrien Jovenot.
Bienvenue chez nos cousins québécois, le peuple le moins déprimé de la Terre. Attention, en y allant, vous courez le risque de ne jamais vouloir rentrer. C'est ce qui est arrivé à Anthony Ozoraï, libraire tombé en amour à Trois-Rivières. Avec lui, nous irons aussi à Montréal, déguster une poutine chez André-Marie Coudou, comédien et franchisé de Frites Alors. Et puis nous prendrons des nouvelles de la grande famille des Belges du bout du monde qui se déconfine un peu partout sur la planète. Tout ira bien.
Les Belges du bout du monde,
le dimanche de 9h à 10h sur la première
et 24h sur 24 sur RTBF Ovio.
Слава народу победителю.
J'entame cette nouvelle année plein d'espoir.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
Habemus papa.
Brexit means Brexit.
L'acte d'accusation est lourd.
La première
transversale
avec Olivier Nederland.
Merci d'être au rendez-vous de votre magazine de reportage. Excellent week-end. Nous allons d'abord nous intéresser au monde carcéral aujourd'hui. Parce que depuis 2 mois, les détenus ne reçoivent plus de visites. Ils ne voient plus leurs proches, ils ne voient plus leur famille, si ce n'est parfois par vidéo interposée. On parle aujourd'hui d'une reprise des visites sous condition à partir du 25. Mais en attendant, la situation est particulièrement difficile dans les prisons. Nous l'entendrons. Comment rester confiné lorsqu'on n'a pas de chez soi? C'est le paradoxe que vivent les personnes sans abri depuis le début du confinement. Alors pour les aider à vivre un peu plus facilement cette période délicate, une douzaine d'hôtels ont rouvert leurs portes en région bruxelloise. Des associations et les autorités publiques se mobilisent. Enfin, nous serons aussi au Liban, parce que cela fait 20 ans que les derniers chars israéliens ont quitté le sud du Liban. À l'époque, des membres de l'armée du Liban Sud sont rentrés en Israël. Et aujourd'hui encore, le sort de ces anciens alliés d'Israël ravive les souffrances de cette occupation des familles. Des centaines de familles vivent séparées par une frontière infranchissable. Bienvenue dans Transversal. Les 10 000 détenus du pays n'ont donc plus le droit de voir leur famille ou leurs proches depuis le début du confinement. 2 mois que cela dure donc, un double confinement quelque part. Alors certains tentent de leur venir en aide en mettant en place des visites par vidéo interposée, par exemple. Mais ce n'est évidemment pas la même chose, d'autant que la situation a largement changé aussi au sein même des prisons. On parle aujourd'hui, c'est vrai, d'une reprise des visites le 25, dans une dizaine de jours, et sous condition évidemment. Mais en attendant, Jérôme Durand s'est intéressé tout récemment à ce qui est mis en place pour aider les détenus. Et son reportage débute par certains de leurs témoignages recueillis par téléphone.
Oui, bonjour, j'ai essayé de vous contacter, mais il y a un message qui est tombé.
Il aura fallu un simple appel à témoignage sur nos antennes pour que de nombreux détenus appellent le répondeur de la rédaction.
Il y a un grand problème dans les prisons, hein. C'est honteux quand même.
Pour qu'ils utilisent leurs précieuses minutes de téléphone.
Un jour, j'ai 22 ans et je suis en prison.
Pour tenter d'attirer les regards.
Bonjour, je suis actuellement à la prison de Harlon et je voudrais savoir quand est-ce que sera possible des visites et des congés pénitentiaires. Je vous remercie, au revoir.
Quand est-ce que les visites familiales reprendront? On a voulu les réinstaurer dans une maison de repos, s'il vous plaît, là où il y a le plus de monde. Mais chez nous, ce n'est pas qu'on a autorisé ou refusé. On n'a même pas évoqué le cas.
Des visites, des congés suspendus depuis 2 mois, au motif que chaque visiteur est un potentiel cheval de Troie. Le monde extérieur, synonyme de liberté, est désormais source de danger pour les détenus. Du jour au lendemain, le temps s'est arrêté en prison, place à un grand sentiment d'abandon.
Personne ne s'est préoccupé de notre cas. On s'en fout complètement, je vous en supplie. Malgré que nous sommes un peu aux oubliettes, ne nous oubliez pas. Merci.
À l'intérieur des prisons, les détenus sont plus isolés que jamais. Même les associations qui les soutiennent ont très fortement réduit leur présence en prison. Plus de temps en cellule, moins en préau, sans parler du travail pénitentiaire, à l'arrêt ou presque. Les contacts entre prisonniers sont limités au strict minimum.
Tu veux commencer ? Oui ?
J'ai des vidéos, des petits messages, tu me manques.
Briser cette spirale de l'isolement, ouvrir des fenêtres sur l'extérieur, c'est l'enjeu, coûte que coûte. Et c'est par exemple ce que tente de faire le relais enfants-parents. Après quelques semaines d'éloignement de l'univers carcéral, cette association qui vise à maintenir le lien entre les détenus et leurs enfants est de retour en prison, avec un projet pilote d'échange de vidéos à Lantin, Namur et Andenne.
Bonjour papa, je t'aime dans mon cœur pour tous les jours. J'espère qu'on va te voir bientôt.
Cette petite voix, c'est celle de Clara, 6 ans. Elle n'a plus vu son papa depuis le début du confinement. Une rupture pour cette petite fille qui lui rend d'habitude visite en prison au moins une fois par semaine.
Tu pries, je me manque fort.
Puisque les enfants ne peuvent plus rentrer en prison, le relais joue les entremetteurs. Avec sa mère derrière l'objectif, Clara a enregistré des vidéos pour son père.
Papa, un petit poème.
Pour te dire que je t'aime.
Le relais se charge de les lui transmettre une fois par semaine et en profite évidemment pour faire répondre le père.
Papa, chérie.
Nous avons en fait un bureau dans lesquels on a pu poser des plexiglas pour permettre une séparation physique entre nous et le parent incarcéré.
Charlotte Fossoul est psychologue au relais.
Pour le moment, c'est un peu la débrouille, donc on travaille avec du matériel privé en partie, du matériel prêté par la prison de l'autre. Et alors, on appelle les parents incarcérés un par un pour venir visualiser la petite vidéo. Moi, ceux que j'ai rencontrés, ils étaient plutôt dans l'émotion. Le fait de pouvoir voir leurs enfants, entendre leur voix... Ces vidéos ont vraiment servi à être bouffées d'oxygène pour eux. Certains ont demandé à revoir la vidéo, parfois en fermant les yeux, vraiment en s'imprégnant de la joie de vivre qui émanait de ces envois.
Clara, c'est ton papa. C'est pour te dire que j'ai bien reçu tes petits messages, tes belles petites vidéos. J'étais vraiment très très content de te voir. Tu étais très très belle. Je te fais plein de gros bisous, ça va? Je t'aime, attrape-le, mets-le dans ton cœur. Bisous mon cœur.
Bonjour monsieur.
Bonjour Clara, comment ça va?
Bien.
Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as reçu une vidéo de lui où on voit, tu as pu voir son visage?
J'étais contente, heureuse.
Incarcéré à la prison de Lantin depuis près de 5 ans.
Oui, allô, bonjour.
Le papa, Brian, souffre de ne plus pouvoir serrer sa fille dans les bras.
Et ça m'a fait du bien de voir ma fille qui a 6 ans et qui ne comprend pas le corona, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je ne peux plus voir mon papa, pourquoi, est-ce que j'ai été méchant, est-ce que lui il est méchant. Et ce petit moment de vidéo, c'est vraiment un soulagement, quoi.
Brian a même pu vivre un grand moment à distance, l'anniversaire de sa fille.
Tu peux souffler, mon cœur.
Je souhaitais avoir un gâteau avec la photo de son papa dessus, donc j'avais réalisé son souhait, j'avais mis la photo avec son papa. Comme ça, il avait vu sur la vidéo à quoi ressemblait le gâteau.
J'ai mangé la photo de papa.
Elle était vraiment contente.
Cindy est la maman de Clara et la compagne de Brian. Pour cette famille, le plus difficile, c'est l'absence de perspective.
On est dans le doute de savoir quand ça va reprendre, comment ça va reprendre. Quand c'était des grèves, ils avaient des réunions, donc des décisions qui se prenaient. Donc là, on avait plus ou moins un envisagement de se dire dans combien de temps ça reprendra. Là, on est vraiment sans réponse. C'est ça qui est le plus dur.
Un flou angoissant qui concerne en Belgique quelques 10 000 détenus et leurs familles. C'est vrai, les prisonniers et leurs proches ont l'habitude de la détention, de ses contraintes, mais le confinement ajoute une couche supplémentaire qu'il ne faut pas négliger.
Alors oui, c'est une mesure qui touche aussi l'ensemble de la population belge dans une certaine mesure.
Nicolas Cohen, membre et ancien président de la section belge de l'Observatoire international des prisons.
Mais pas à la hauteur de ce qui affecte les détenus et qui n'est remplacé que très marginalement par un peu de crédit téléphone qui est octroyé aux détenus et la promesse de visite qui pourrait s'organiser par vidéoconférence, mais qui dépendra très largement des moyens mis en œuvre par l'administration pénitentiaire ou de la disponibilité d'ordinateurs et de connexions dans des établissements dont beaucoup sont trop vétustes, même pour pouvoir l'imaginer.
Ces vidéoconférences qu'évoque Nicolas Cohen, c'est un autre projet que celui du relais, porté cette fois par l'autorité fédérale. Ici, il est question de conversations en direct et dans toutes les prisons du pays. Les balises prévues, un ordinateur pour 100 détenus et pour chaque détenu, un appel de 20 minutes par semaine. Depuis le 24 avril, l'équipement se met progressivement en place, prison par prison. Mais il aura fallu attendre plus d'un mois de confinement pour que ces vidéo-visites soient envisagées. Un symbole pour Brian, détenu à Lantin.
Les gens vont voir leur visite, voir leur famille, enfin, quoi. On a été un peu oubliés, délaissés. Je dirais même qu'on ne parlait pas de nous. Tous les jours, je suis devant RTL, devant RTBF. J'écoute la radio, je jette les journaux, la meule, je lis, j'attends. Et je vois qu'on ne parle pas de nous, quoi. On est là. C'est tendu. Les gens n'ont pas de linge, n'ont pas d'affection, n'ont pas d'amour. Pour certains d'autres, ben, ils n'ont pas leurs produits illicites à la prison pour consommer, pour se soulager. On peut le dire, nous, on est confinés déjà de base, on est enfermés. Mais une détention comme ça, c'est pas supportable. Pour celui-là qui n'a pas de caractère, qui n'a pas de mental, il est délaissé à lui-même. C'est sûr que si vous ne venez pas à moi pour m'écouter, je crois que la détresse, on n'entend pas la détresse.
Alors l'univers carcéral est-il l'un des grands oubliés de ce confinement? La prison est-elle dans l'angle mort des responsables politiques? Suzy Collard le pense.
C'est forcément une problématique qui passe au second plan. C'est pas porteur. Hein.
Elle est la présidente de la Fédération des services d'aide aux justiciables.
Il n'y a pas un mot sur le sujet, que ce soit dans les interventions de la Première ministre ou des porte-parole du Conseil de sécurité. Il y a cette perception d'injustice, en tout cas, d'être doublement puni et effectivement d'être des citoyens de seconde zone, forcément, qui ne suscite absolument pas l'empathie comme celle apparue vis-à-vis des personnes âgées dans les homes. Ça va de soi.
L'avocat Nicolas Cohen poursuit dans le même sens.
Il y a toute une série de problèmes qui en fait remontent à avant l'épidémie, mais qui montrent bien que, alors que c'était des problèmes qui étaient identifiés avant de capacité des établissements pénitentiaires à gérer une détention plus humaine, eh bien, en période extraordinaire de confinement, on se rend bien compte que les inhumanités d'avant deviennent les inhumanités d'aujourd'hui et les souffrances des détenus au quotidien qui sont incapables d'être rencontrées par une administration qui ne sait aujourd'hui que se protéger elle-même finalement par rapport à l'épidémie et pas protéger les détenus.
Et ce n'est pas la libération en urgence d'un gros millier de détenus pour réduire la surpopulation carcérale. Ce n'est pas ce geste de l'autorité fédérale qui aura arrangé vraiment les choses, selon Nicolas Cohen.
Alors la réduction, elle est importante. Les chiffres de l'administration ont montré qu'il y avait une diminution d'à peu près 10% de la population, donc c'est notable. Ça a évidemment facilité la vie de ceux qui sont dehors grâce à ces mesures, ou ceux qui ne sont pas rentrés grâce à ces mesures. Maintenant, ceux qui sont restés dans les établissements pénitentiaires ne sont pas du tout affectés, puisque à l'intérieur des établissements, la seule priorité de l'administration a été d'éviter l'épidémie et que l'épidémie touche les détenus, ce qui semble avoir fonctionné, donc ça c'est tant mieux, mais certainement pas d'améliorer les conditions de détention ou de permettre qu'elle soit plus digne.
Et quand on se penche de plus près sur ces conditions de détention, un élément saute aux yeux. En Belgique, tous les détenus ne connaissent pas le même sort.
Il y a de profondes inégalités qui sont liées en fait au système carcéral lui-même. Certains établissements ont la possibilité d'ouvrir les préaux de plus longues heures que d'autres. Donc certains détenus ne sortent qu'une heure par jour, d'autres peuvent sortir deux ou trois heures par jour. Certains établissements peuvent déjà envisager de permettre à des détenus de retourner à une salle de sport, d'autres pas. Certains établissements ont permis aux détenus de compenser l'isolement par la télévision gratuite, d'autres pas. Il faut savoir que la télévision en prison, ça coûte 20 euros par mois et qu'un détenu est rémunéré 1 euro de l'heure, comme si un citoyen travaillait à mi-temps simplement pour payer sa télévision. Donc voilà, ces choses-là, les détenus sont très inégaux par rapport à ça selon les établissements, et ces inégalités deviennent des injustices quand elles ne sont pas justifiées et qu'elles font souffrir des détenus qui sont en manque de contact avec l'extérieur.
Et ces inégalités, ces injustices, on ne les connaît que trop bien à la vétuste prison de Forêt.
Oui, allô.
Oui, Vincent Spronck.
Oui, bonjour.
Bonjour, c'est Jérôme Durand ici.
Ah oui, c'est vrai, j'avais tout à fait oublié.
Vincent Spronck est le directeur de cette prison construite au début du XXe siècle.
Il y a 148 cellules à Forêt, d'une centaine de cellules qui ne sont pas équipées de sanitaires et d'eau courante. On n'a pas d'eau dans les cellules, on n'a pas de toilettes dans les cellules, alors que le premier conseil, c'est de se laver les mains, c'est évidemment difficile. Hein. Le confinement est organisable, hein. On dit qu'on n'ouvre pas la porte, ben voilà, le confinement est organisé. Mais il faut alors abreuver massivement en produits d'hygiène, en lingettes et compagnie.
Dans cette maison d'arrêt, la vie quotidienne a beaucoup changé. Pour respecter les mesures de distanciation sociale, la durée des préaux par détenu a fortement diminué. Les prisonniers ont aussi dû renoncer à une certaine liberté de mouvement.
La prison de Forêt est particulière dans la mesure où il y a un régime relativement ouvert, c'est-à-dire que pour faire simple, entre 7h et 21h, dans une grosse partie de la prison, les portes des cellules sont ouvertes pour que les détenus puissent aller à la toilette, puissent aller à la douche, puissent aller téléphoner, puissent aller cuisiner, puissent voir d'autres détenus, puissent aller travailler. Maintenant, on ouvre les portes pendant 1h30 seulement, et puis une autre 1h30, ils vont au préau. Et donc, là aussi, alors que les détenus sont en manque de contact avec leur famille ou leurs amis, les contacts interdétenus qui font aussi partie de la vie quotidienne de la prison ont été limités.
Quel est le ressenti des détenus? Qu'est-ce qui remonte jusqu'à chez vous? Est-ce que tout ça, malgré tout, est vécu de manière acceptable ou pas?
Alors, je trouve que la situation est relativement sereine. Je trouve que les détenus font preuve d'un civisme qu'il faut saluer courageusement. Globalement, l'heure est à la compréhension et à une immense patience de la part des détenus.
Une relative sérénité qui n'empêche évidemment pas certains mouvements d'humeur, certaines tensions et violences, comme ce fut par exemple le cas fin mars en cascade dans plusieurs prisons du pays.
Voilà la situation dans les prisons, donc, en cette période de crise. Reportage réalisé par Jérôme Durand. Le déconfinement a débuté, mais pour autant, on ne peut évidemment pas faire tout ce qu'on veut. Les contacts sociaux doivent toujours rester limités, nos déplacements aussi. Rester chez soi au maximum. Alors comment est-ce possible quand on n'a pas de chez soi précisément? C'est la situation que vivent les personnes sans abri depuis le début du confinement. À Bruxelles, ils et elles sont environ 4000, des personnes par définition plus vulnérables. Alors pour leur permettre de se protéger du virus et de se confiner, la région bruxelloise et cette commune ont ouvert plusieurs centaines de places dans une douzaine d'hôtels, avec évidemment l'accord de leurs propriétaires. Cette solution temporaire permet aux personnes de rester confinées de manière digne. Voici De la rue à l'hôtel, c'est un reportage réalisé par Jean-Marc Vierset et Aline Wavreille. Un reportage réalisé donc en pleine période de confinement. Il débute à Schaerbeek.
Vous avez mis la première personne dans quelle chambre?
Il est dans la 21.
21.
Descendre et monter l'escalier 4 à 4. Se familiariser avec les lieux. C'est la course contre la montre pour l'équipe du SAMU social qui doit transformer cet hôtel 2 étoiles en centre d'hébergement.
mets des affiches pour,
Pierre Pecel.
Pour spécifier que le port du masque est obligatoire à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment.
Il faut aussi qu'ils se familiarisent avec les lieux, donc vous indiquez aussi quels sont les endroits stratégiques de l'hôtel.
On a des indications, toujours sous forme de pictogrammes. Où se trouve le fumoir, la cuisine, le salon, tout ça. Pour qu'ils se perdent pas dans ce petit labyrinthe d'hôtel, on va dire.
En début d'après-midi, les premiers hébergés arrivent au compte-gouttes. On en attend 9 aujourd'hui, 70 en tout.
Hello.
Hello.
Bonjour, vous parlez français?
English.
Ok. Welcome, I'm Mathilde.
L'équipe accueille les personnes, leur explique les règles, les heures des repas, on sort le moins possible, on ne consomme pas d'alcool ni de drogue, on porte le masque.
Vous pouvez sortir, on vous conseille de rester ici, parce que c'est quand même le confinement pour tout le monde. Mais heure maximum pour rentrer, 21h30.
Mathilde, assistante sociale.
C'est important pour que les gens sachent aussi ce qu'elles ont le droit de faire ou pas, où elles sont, etc. Ce qui est mis en place comme règle par le SAMU, c'est sûr qu'il y a des choses à respecter aussi pour pouvoir vivre tous ensemble, parce que mine de rien, ça s'organise, quoi.
Vous essayez aussi de respecter la distance dans les chambres. Je vois que vous avez aménagé la chambre un petit peu différemment.
Oui, effectivement, des fois on a enlevé des matelas, on a rajouté des matelas à d'autres endroits. Voilà, on essaie de respecter au maximum les distanciations, effectivement.
Je vous vois courir un petit peu partout. Là, il y a pas mal de choses à gérer. C'est une grosse logistique, quand même.
Ah oui, c'est sûr. Surtout là que, pour l'instant, ils ne sont pas encore beaucoup, mais à la fin, ils vont être... C'est quand même un centre qui peut accueillir pas mal de personnes. Il y a des choses qu'il va falloir qu'on change, c'est sûr, mais ça se fera au jour le jour, je pense. Là, on n'a pas le choix.
Redouane vient de sortir du centre de Touré Taxi, géré par Médecins Sans Frontières, comme la plupart des personnes qui seront hébergées ici. Là-bas, on accueille les personnes sans-abri qui ont contracté le Covid-19 ou les personnes pour lesquelles il y a une suspicion.
J'ai un ami, ça fait bien longtemps avec moi, ça fait 20 jours. Ça fait 20 jours qu'il est avec moi.
Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas sorti dehors ?
Ça fait 14 jours. On a fait le test et tout. Le deux tests est négatif. C'est bien, merci beaucoup pour le coup de main, ça.
Vous étiez dans la rue déjà depuis un certain temps ?
Ouais, ça fait presque 2 mois.
Le fait d'être ici, comme ça, dans ce centre, dans cet hôtel, qu'est-ce que ça vous fait ?
C'est mieux que la rue. On est bien ici, vraiment. Vraiment, c'est magnifique.
Vous savez pour combien de temps ça va durer ?
Non, je connais pas. Je connais pas combien de temps.
C'est dans l'urgence, en fait. Donc voilà, on fait au jour le jour.
Dans l'urgence, au jour le jour, ce projet à Scarbec a été activé en quelques jours à peine. Une quinzaine de personnes vont le faire tourner 24 heures sur 24. Valentin Lenclus en est le coordinateur.
Alors moi, j'ai été au courant de l'ouverture du centre vendredi passé. Pour la plupart, les équipes ont été au courant quelques jours auparavant. Et il y a encore des personnes qui ne sont pas au courant qu'elles vont travailler ici, qui n'ont pas encore été engagées.
C'est quoi vos appréhensions ?
L'appréhension, c'est que les personnes qu'on héberge ne soient pas forcément réceptives aux mesures sanitaires. Sinon, c'est des personnes qu'on a l'habitude quand même de gérer. C'est un public que le SAMU social connaît. Donc, ça devrait bien se passer.
Bonjour, monsieur.
Bonjour. Vous pouvez choisir le lit que vous voulez.
Pendant que les personnes s'installent, le propriétaire de l'hôtel, Nordine Kouchi, est toujours assis à la réception. Lui aussi a quelques appréhensions, mais il se réjouit que son hôtel reprenne vie.
C'est mieux aider les gens comme ça. Bien sûr, il m'a payé un petit forfait, vraiment un petit peu. Il n'y a pas de gain là-dedans. Mais comme ça, ça nous aide un petit peu pour couvrir notre charge. Comme ça, le personnel peut travailler un petit peu et voilà.
Ça fait du bien de revoir un peu de vie dans votre hôtel ?
Ça fait du bien, oui. Dans cette situation-là, voilà, c'est un peu vie, ça bouge un peu et on voit les gens. Sinon, c'est la frustration. Hein.
Vous avez aussi des craintes ?
C'est normal, c'est différent. Allez, parce que comme on a fait la rénovation juste l'année passée, fin l'année passée, tout est nouveau là-bas, l'installation et tout ça. On a un petit craint que des gens sont disciplinés ou quoi, mais ça, SAMU Social nous a assuré qu'il va s'en occuper pour la discipline et tout ça.
C'est inédit, ça, dans l'histoire de l'hôtel ?
C'est la 12e fois. Une fois, on a eu, quand il y avait le grand influx de le réfugié, on avait travaillé aussi avec Fait d'Asile, mais je crois que c'était 2013, 2014, quelque chose comme ça. Et c'est la 12e fois, oui. Voilà, portes sont ouvertes.
Depuis le début de la crise, 12 hôtels ont rouvert pour héberger des personnes sans-abri en région bruxelloise. Plus de 700 places. 7 communes participent. On parle de réquisition d'hôtels parce que c'est comme ça que s'appelle l'acte administratif, mais en réalité, ça se fait sur base volontaire. Sur le terrain, des dizaines d'associations travaillent ensemble. Pour coordonner ce dispositif, Bruxelles, une très jeune structure. François Bertrand est son directeur. Il nous explique pourquoi ce dispositif a été mis en place. Il fallait protéger les personnes sans abri, protéger aussi la population en général.
Déconcentrer les différents gros sites, donc c'est essentiellement les sites SAMU Social, mais c'était également la Croix-Rouge, pour des mesures sanitaires, mais aussi simplement des mesures de meilleur accueil, parce que c'est très difficile de vivre en confinement avec des surfaces très réduites, qui plus est dans des grandes communautés. Et donc le but, c'était, comme pour le reste de la population, d'offrir aux personnes sans-abri, qui sont déjà plus fragiles au niveau santé, un cadre de qualité pour pouvoir vivre l'ensemble du confinement dans les meilleures conditions possibles.
Sur base de quel profil, de quels critères vous allez orienter les personnes dans les différents lieux ?
On a ouvert, il y a une dizaine de jours, un dispatching téléphonique pour les cas de signalement Covid-19. Et avec une vision centrale chez ces dispatchers, c'était de faire correspondre un cadre spécifique d'accueil avec la bonne personne. Donc, c'est-à-dire qu'une femme seule ou une famille monoparentale va être orientée, par exemple, prioritairement vers un hôtel où les différents travailleurs sociaux et médicaux qui opèrent sont spécialisés pour ces problématiques-là. De même qu'une personne particulièrement vulnérable au niveau soins de santé va être orientée vers MediHalt ou vers des structures fortement médicalisées pour qu'elle puisse recevoir tous les soins voulus.
À Anderlecht, celui que l'on a baptisé l'hôtel Maria a atteint son rythme de croisière. Des personnes sans-abri et des sans-papiers y ont pris leur quartier début avril. Quand on le visite, il y a une dizaine de jours, on est encore en plein confinement.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Merci.
Je peux donner la bouteille d'eau.
Sur le coup de midi, les repas sont servis. Keïsa et Anifa poussent un énorme chariot dans le couloir.
Alors, je suis Keïsa Arconcement, je travaille aux affaires sociales de la commune, donc je suis assistante sociale et je me suis proposée de venir faire des shifts ici pour soutenir l'équipe en général. Voilà.
Et moi, c'est Anifa Ramouraj. Je me suis dit, c'est mon rôle en tant qu'assistante sociale et en tant qu'humain de venir soutenir l'équipe et soutenir le projet.
Alors, il y a le rez-de-chaussée et deux étages en plus. Donc, on est à peu près à 34 personnes. On demande qu'ils restent à l'intérieur puisque c'est un confinement. Ils doivent se justifier s'ils sortent, parce qu'il y en a qui vont à l'hôpital, etc. Mais voilà, on demande qu'ils restent en chambre, un maximum.
Voilà. Ça se passe bien, l'ambiance est quand même détendue.
Oui, il y a eu comme un peu partout des conflits, mais sinon, je pense que tout a été mis à plat. Il y a des gens qui se connaissent de l'extérieur qui ont déjà eu des conflits auparavant. Donc voilà, il fallait un peu gérer tout ça, mais bon, sinon ça va.
Voilà, monsieur.
Bonjour, monsieur.
À chaque porte qui s'ouvre, c'est une histoire différente et une expérience de la rue qui se raconte. Au rez-de-chaussée, Philippe nous invite dans la chambre qu'il partage avec sa compagne, Pascal. Assise dans le canapé, elle est absorbée par la télé.
Oh, ça fait déjà 7 ans qu'on n'a plus regardé la télévision. Toujours en route avec ses cartes dites, tout par tous les côtés. C'est ma carte dite, ça. Plus que ça, mais ils ont tout volé. Des couvertures, tout, ils ont tout. Du linge. Bon, la première, c'est mettre du linge.
Ça, vous ne sépariez jamais de ça. Et là, maintenant, c'est dans une armoire.
Regarde, on a tout.
La chambre est parfaitement rangée, le linge soigneusement plié. Plus de 7 ans de rue, un peu de répit et 3 repas par jour contre un tiers du revenu d'intégration sociale qu'ils reçoivent du CPAS.
C'est mieux que dehors ici. Hein.
On a tout.
On a tout. On est bien ici.
On a bien ici. Participation 126 euros, ce qui est normal, parce qu'il faut respecter aussi minimum.
On peut même participer.
Hein, c'est pas beaucoup, hein, parce qu'on a un micro-ondes, un frigo, on a tout ce qu'il faut.
On a
la télé. On est heureux. C'est parce qu'on a été 7 ans et demi dehors, nous. Moi, j'ai dormi dans des bancs, j'ai dormi dans des... au fitness. On a dormi un peu partout, par terre tout le temps, en plein hiver.
Il y a eu des choses pour lesquelles ça a été difficile de se réhabituer.
Oui, au début, quand on est rentré ici, on était un peu stressé, la tension, elle m'a dit c'est normal, c'est le changement de situation. Mais ils s'occupent bien de nous, il y a des infirmières qui font des contrôles tout le temps, il y a des aides-soignants, il y a tout, les psychos, il y a tout ici. Nous, on se plaît, on est tranquille.
Tranquille, on est bien ici.
Et dormir sur un bon matelas.
Ah oui, madame.
On ne dort pas dans les draps et tout. Nous, on a 2 couvertures, on est habitué comme ça. Pour le respect, quoi.
Samy, lui, vient tout juste de se réveiller. Ça se voit à ses yeux, tout ensommeillé, qui sourit au-dessus de son masque. Il vient d'Algérie, il est sans papier depuis 4 ans en Belgique.
En fait, on était dans un squat. Ils sont passés une fois pour ramener la bouffe pour nous. Et une fois, deux fois, ils ne nous ont pas trouvé parce que nous, on sort le matin. On rentre seulement le soir pour dormir, en fait. Un jour, j'ai croisé un monsieur. Il m'a dit, il y a un hôtel et tout, on va me ramener là-bas.
Vous y avez cru au début?
Franchement, non. J'ai dit, un hôtel et tout, tu vois, un SDF, sans papier. Et franchement, j'ai pas cru. Et après, c'était vrai, quoi. C'était bien.
Qu'est-ce que ça vous fait, justement, d'avoir une chambre à vous?
Franchement, ça fait 4 ans. Je suis en Belgique, ça fait 4 ans. J'ai pas dormi dans un lit pendant 4 ans. C'est la première fois, ça. Pendant 4 ans, de dormir sur un lit, en fait. Ouais, il chauffe un petit peu chaud et tout. La télé, j'ai pas regardé, ça fait 4 ans. Ça fait grand plaisir, quoi. Merci à tout le monde, et merci à l'État belge, et merci les gens qui naissent ici, et merci à tout le monde, franchement, ouais. Mm-hmm. Ça fait grand plaisir, ça.
Et qu'est-ce que vous faites de vos journées, comme il faut rester à l'intérieur? Vous faites quoi?
Franchement, pas très franche avec vous, à droite à gauche, je cherche un boulot, au noir, en fait, tu vois.
Mais c'est difficile.
C'est très difficile même. C'est pas difficile, c'est très, très, très difficile, tu vois. Les gens, ils n'engagent pas, les gens sans papier et tout, tu vois. Mais on n'a pas le choix pour vivre un petit peu, tu vois, pour acheter quelque chose à manger. Moi, j'ai passé 4 ans dans la galère comme ça, tu vois. C'est un petit peu bizarre pour moi. J'ai même pas un sac de vêtements, tu vois.
Et vous sentez bon?
Bien, oui. La douche, franchement, quelquefois, je passe un mois entier sans douche, tu vois. Et maintenant, le dos est à côté, là. Franchement, je prends tous les jours un douche. Tous les jours, ouais.
Vous craignez le moment où ce sera fini?
Je sais pas si... Ils m'ont dit jusqu'à la fin de mai, mais je ne sais pas exactement. On verra.
En quelques semaines, il y a du changement, un peu de stabilité et une fenêtre d'opportunité pour raccrocher les personnes aux aides auxquelles elles ont droit. Aurélie Baudou, coordinatrice du service affaires sociales de la commune.
De notre côté, il y a cet objectif aussi qui est bien clair, qui n'est pas l'objectif premier du dispositif, mais qui vient clairement juste après, c'est de mettre en place des suivis sociaux approfondis. Et donc chaque personne qui est hébergée ici a un ou deux assistants sociaux de référence. Et voilà, on essaye qu'elles aient chacune un domicile ou une adresse de référence, qu'elles soient affiliées à une mutualité, qu'elles puissent recevoir un revenu si elles ont droit à un revenu, donc que ce soit un revenu au niveau du CPS ou une pension d'invalidité ou autre, et qu'elles soient aussi suivies par un médecin traitant ou inscrites dans une maison médicale. Voilà, c'est un petit peu les priorités qu'on s'est fixées ici au niveau de l'équipe.
Bilal Aljabrouni, coordinateur des éducateurs de rue.
C'est sûr que le fait de voir une personne qui est sereine, qui ne doit pas se poser 10 000 questions à savoir où je vais dormir, qu'est-ce que je vais manger, c'est sûr que ça se voit aussi sur le physique. Je prends l'exemple d'un collègue qui me disait qu'il n'a pas reconnu une personne qui livrait tous les jours d'ailleurs. Et quand il l'a vu ici, il l'a limite pas reconnu, quoi. Vraiment, on sent cette dignité retrouvée quelque part et c'est beau à voir.
Une dignité retrouvée, mais pour combien de temps? Ces dispositifs d'urgence, qui représentent 7 millions de budgets supplémentaires, sont prévus le temps de la crise, au moins jusqu'à la fin juin. Et après?
Ce n'est pas un objectif du tout de renvoyer des personnes à la rue.
Alain Marron, ministre bruxellois de l'Action sociale.
Donc nous voulons trouver des solutions. Ça peut être une prolongation d'un certain nombre des hôtels, c'est une hypothèse, il faut qu'on libère des budgets supplémentaires. Voilà, c'est une partie de la solution. L'autre partie de la solution, c'est de l'hébergement ou du logement provisoire, que ce soit des logements tiny houses, containers, occupation précaire, squat encadré, enfin des choses comme ça. Et puis, il y a la mise en logement de manière un peu plus définitive, mais il faut effectivement trouver les logements, ce qui est toujours une difficulté. Donc, d'ici la fin du mois de juin, c'est effectivement compliqué. Ce qu'on veut, en tout cas, c'est que les solutions qu'on met en œuvre à partir de la fin du mois de juin, des solutions donc de court terme, on va dire, soient compatibles avec des solutions de moyen terme et de long terme. Et ce qu'on veut quand même globalement, c'est qu'il y ait moins de sans-abri en rue, c'est-à-dire plus de personnes qui aient un véritable logement. Donc on doit sortir de cette logique et mettre les pas dans une logique de réhébergement plus structurelle.
La réflexion est en cours. Reloger de manière durable les sans-abri, au lieu de les héberger tous les soirs dans l'urgence, c'est ce que le secteur défend depuis des années.
S'il y a urgence, c'est de pouvoir trouver des solutions de logement durable pour toutes les personnes sans-abri à Bruxelles. Et c'est possible.
Muriel Allard coordonne le projet Housing First, de relogement donc, pour une association, le SMES. Depuis 2013, 150 personnes ont été relogées à Bruxelles. Et des années plus tard, 90% d'entre elles le sont toujours.
150 personnes, mais on a vraiment commencé à travailler avec les sans-abri les plus fragiles. Donc 150 personnes qui étaient en rue depuis longtemps, qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont des problèmes d'addiction, qui demandent vraiment un accompagnement très intensif, parfois lourd. Et donc, l'idée, c'était vraiment de montrer que c'était possible. On a réussi avec les personnes les plus fragiles, donc c'est possible avec des personnes un peu moins fragiles et ça demandera un peu moins d'énergie. On a remarqué aussi que, mais au moins de temps les personnes passaient en rue, au plus il était facile de les reloger et finalement de les réinsérer. On voit par exemple à Gand, ils ont maintenant relogé toutes les personnes qui étaient en rue depuis plus de 6 mois. Il ne reste que des sans-abri qui sont là depuis pas longtemps, et donc c'est beaucoup plus facile de relancer la machine et de les réinsérer.
À Bruxelles, le nombre de sans-abri a doublé en 10 ans. Le risque, c'est que la crise du coronavirus pousse d'autres personnes dans la rue. Il y a bien des mécanismes d'aide qui sont sur les rails, de prévention, moratoire sur les expulsions jusqu'à la fin juin, une prime pour certains locataires, soutien au CPAS.
Bon appétit. 18.
Bonjour. Et sur le parvis de Saint-Gilles, là où l'association Lilo distribue des repas, une autre réalité émerge. Cassol Bangoula, bénévole.
70 repas là, ont été prévus pour aujourd'hui.
Et c'est constant, c'est comme ça tous les jours?
C'est comme ça tous les jours, ça se passe en deux services. Le premier de midi et demi à Caen on termine et le deuxième de 13h à Caen on termine. C'est 35 repas par distribution.
Avec la crise, vous avez vu les fils s'allonger?
Oui, hein, forcément, parce qu'il y a des nouvelles situations de sans-abrisme qui se sont créées. Et donc, d'office, les fils se sont allongés.
La directrice de Lilo, Ariane Dirix.
Du jour au lendemain, presque instantanément, au moment du confinement, on a vu arriver des nouveaux visages. Ce sont les visages de la précarité, de ces emplois en noir, de ces petits métiers comme ça qui étaient un peu invisibles, cachés dans les coulisses de cette société, qu'on connaît en fait. On connaît cette réalité-là, mais tout d'un coup, elle nous éclate à la figure parce que les patrons ne sont plus là, parce que les gens qui dormaient sur un chantier n'ont plus accès à ce chantier et se retrouvent vraiment sans aucune solution. Donc on l'a vu concrètement, on le voit encore. Ces personnes sont maintenant chez nous tous les jours depuis le début du confinement et on imagine bien qu'elles seront là demain aussi.
29. Yes, s'il vous plaît. Merci. Merci. Bon appétit. 30.
Et j'ajoute encore que l'association Lilo, dont on vient d'entendre la directrice, a aussi ouvert un hôtel sur le territoire de la ville de Bruxelles. C'était donc un reportage en région bruxelloise d'Aline Wavreille et Jean-Marc Viercet. Enfin, nous allons terminer par un reportage réalisé au Liban. Parce qu'il y a tout juste 20 ans, en mai 2000, les derniers chars israéliens quittaient le sud du Liban. Un retrait qui intervient après 22 années d'occupation. Et au moment de ce retrait, les soldats de Tsahal, de l'armée israélienne, emmènent avec eux près de 7000 Libanais. Ce sont des miliciens avec leurs familles. Ils sont alors membres de l'ALS, l'armée du Liban Sud. C'est une milice à majorité chrétienne alliée à l'armée israélienne. Et aujourd'hui, 20 ans après, des centaines de familles vivent toujours séparées par une frontière infranchissable. Au Liban, le sort de ces anciens alliés d'Israël ravive les souffrances de cette occupation et certains de leurs proches aimeraient les voir revenir. C'est ce que nous allons découvrir dans ce reportage tourné au Liban, donc fin de l'année dernière, par Nicolas Feldman.
Donc là, on monte sur une échelle.
N'ayez pas peur, monsieur.
Je n'ai pas peur. On monte sur une échelle sur le toit de la maison, le Bassam.
Heda, c'est l'ancienne maison.
Ah, ça, c'est notre ancienne maison. Elle a été bombardée 3 fois. Là, vous voyez, vous aviez la chambre. Elle a été détruite. Les murs sont encore par terre. Ça date de l'époque où les Palestiniens et les Syriens étaient dans la région. Je devais avoir une 15aine d'années. Là devant nous, c'est la vallée de Marjayoun. Elle s'étend jusqu'à la frontière et là-bas, vous trouvez la ville de Metula. Si vous regardez, vous voyez un mur. C'est là que se trouve la clôture entre la frontière entre le Liban et la Palestine ou entre le Liban et Israël.
Donc là, on est à combien de kilomètres à peu près de la frontière là ?
7 kilomètres à peu près.
Donc on voit là, c'est derrière la montagne ?
C'est Israël.
Là, si vous regardez au sommet des montagnes, il y a des postes de l'armée israélienne. Et là-bas, au loin, c'est le plateau du Golan.
Ah, et tout au fond, on voit le Golan.
Je m'appelle Bassam, je viens d'une famille modeste, une petite famille, catholique, chrétienne. La guerre a éclaté soudainement en 1975-1976 et l'État libanais nous a abandonnés. Ils ont laissé le sud du Liban, ce qu'on a appelé le Fatahland, le territoire du Fatah, sous le contrôle de Yasser Arafat et des autres organisations palestiniennes. À cette époque, dans le monde arabe, les Palestiniens n'avaient plus aucun endroit pour mener leur guerre contre Israël. Ils n'avaient plus que le sud du Liban. Et alors qu'ils combattaient Israël, ils ont fait la guerre aux Libanais. À ce moment-là, les gens ici ont commencé à porter des armes. C'était des armes de chasse, des couteaux. Moi, je vais vous dire quel était mon rôle au début. J'étais un simple combattant, j'avais 14 ans. J'étais avec un pistolet, il était plus grand que moi. On était là pour protéger les alentours du village.
Vous avez juste devant vous là une photo, on vous voit habillé en treillis militaire. Vous êtes à droite, votre compagne à gauche et au milieu, entre vous deux, on voit un jeune homme avec une tête bouclée et blond. Qui est ce jeune homme ?
C'est le formateur, il est israélien. Là, oui, c'est moi. Et ça, c'est le formateur avec qui j'ai fait mon premier entraînement. Et là, c'est ma femme. Ce cliché a été pris le jour d'un entraînement à la caserne de Marjayoun, le jour de la fête de Marjayoun.
C'est en 83.
83 ?
Oui.
Et donc ça, c'est avec l'armée du sud Liban, c'est ça ?
De Liban libre.
On ne connaissait rien aux techniques militaires. Ça, c'était notre formateur. Il nous a enseigné la science militaire. On a commencé à porter les armes. Moi, j'avais 14 ans. Et avec le temps, petit à petit, on a appris à connaître les différents types d'armes, les styles de combat. On ne faisait pas qu'apprendre à tirer, mais aussi à organiser une bataille, à se cacher, à se protéger pour tirer. Moi, je voudrais aujourd'hui poser une question à ces familles victimes de massacres dans les villages chrétiens, comme à Damour ou à Aa. Si à cette époque, ils avaient pu recevoir des armes et défendre leur village, qu'est-ce qu'ils auraient fait ? Est-ce qu'ils auraient refusé pour assister au massacre sans défense ? Ou est-ce qu'ils auraient pris ces armes ? Nous, on a dû faire un choix. Soit on mourait et on se considérait comme des gens honnêtes, soit on prenait un pistolet et on était considéré comme un traître. C'est ce qu'on a fait.
Le récit de Bassam et de ces Libanais persécutés dans leur village n'est qu'un point de vue de l'histoire. Tout au long de ces années d'occupation israélienne, l'ALS, cette armée du Liban Sud, armée et financée par l'État hébreu, a étendu son combat à tous les soutiens des Palestiniens, y compris aux Libanais. Ces miliciens ont imposé leur loi par la force dans le sud du pays, traquant les opposants de l'occupation, se livrant à des exactions. Les actes de torture documentés par Human Rights Watch dans la prison de Riyam, le principal centre de détention du sud occupé, n'en sont qu'un exemple. Anis Morsen est cofondateur de l'Association palestinienne des droits de l'homme.
Les Palestiniens ont toujours voulu être Palestiniens, toujours. Ils n'ont jamais revendiqué le contrôle du Liban. Israël borde le sud du Liban et avant le Liban, les Palestiniens combattaient Israël depuis la Jordanie. Le Liban n'est devenu un lieu de résistance qu'après le 5 juin 1967, après la défaite des régimes arabes par les Israéliens. La milice de l'armée du Liban Sud n'était pas assez forte pour se défendre seule. C'est donc Israël qui l'a protégée. C'était entièrement une milice israélienne, avec des membres libanais certes, mais contrôlée à 100% par les Israéliens. Partout dans le monde, sous n'importe quelle occupation, vous trouvez des gens prêts à se battre avec l'occupant. Leur combat n'était pas dirigé que contre les Palestiniens, ils se battaient aussi contre des villages libanais. Parce qu'après 1982, il n'y avait plus de combattants de l'Organisation de libération de la Palestine, de l'OLP au Liban. Ils avaient été évacués. Et en particulier au sud du Liban, il n'y avait plus que des Libanais avec le mouvement Hamal, puis le Hezbollah et surtout avant ça le Parti communiste libanais. Donc ça a surtout été des combats entre des Libanais d'un côté et des Libanais alliés aux Israéliens de l'autre.
Le journal de France 2, 24 mai 2000.
Le dernier char israélien a quitté ce matin la zone occupée par Tsahal dans le sud du Liban. Ce retrait précipité de l'armée israélienne met dans une situation très délicate les miliciens libanais qui s'étaient rangés à ses côtés. Sur place, reportage de Charles Anderla.
Les unes après les autres, les dernières positions qu'occupait l'armée israélienne au sud Liban ont été évacuées durant la nuit. Et les convois de blindés franchissent la frontière. Les miliciens de l'ALS et leurs familles, eh bien, les voici ce matin près de Tibériade. En 48 heures, ils sont devenus des réfugiés en Israël. Ils seront accueillis provisoirement dans ce camp de toile avant d'être logés dans plusieurs villes israéliennes.
Alors vous, Bassam, au moment de ce retrait israélien, qu'est-ce que vous avez fait ?
Le jour du retrait, le 23 mai 2000, je suis parti avec mes enfants et ma femme en Israël. Je suis revenu le 7 septembre 2000. Pourquoi je suis rentré ? Eh bien parce que les autres pays ont refusé de nous prendre comme réfugiés. Et puis on s'est dit au final que notre place était au Liban, ce Liban pour lequel on s'était battu. Donc nous sommes revenus d'Israël par Naoura. Et là, les autorités libanaises m'ont arrêté et je suis allé en prison un an et demi. Et je suis sorti. Ils ont considéré que l'ALS était une armée ennemie. C'est leur droit. Si c'est comme ça qu'ils l'interprètent, je n'ai rien à dire. J'ai dû l'accepter et assumer la défaite et les conséquences qui vont avec. Aujourd'hui, vous avez des gens qui n'ont pas dormi dans leur maison depuis l'an 2000. Ils sont encore aujourd'hui en Israël. Les gens ici, ils n'osent même pas appeler leur famille. Si les services de renseignement enregistrent un coup de téléphone en Israël, ils les convoquent devant un tribunal militaire. Ils n'osent même pas prendre des nouvelles d'eux.
Allô ?
Oui, bonjour Pierre, c'est Nicolas.
Bonjour Nicolas.
On peut se voir à 14h ?
À 14h, oui.
Ok, vers 14h, 14h30, à Ein Ebel, c'est ça ?
À Ein Ebel, à côté de l'église de Sainte-Marie.
D'accord.
Christ Saïdi.
Très bien, bah, okay. on se voit là-bas alors. Merci beaucoup, à tout à l'heure.
Ok.
Alors là, direction Ein Ebel, c'est un village chrétien à l'extrême sud du Liban. On va rencontrer Pierre Asrouni, il est membre du collectif Ha'on Yerjao. En arabe, cela signifie « ils ont le droit de rentrer » et c'est donc un mouvement qui réclame, un peu à l'image de l'amnistie qui a prévalu pour tous les chefs de guerre à la fin de la guerre civile, et bien que leurs proches puissent être blanchis et rentrer au Liban sans poursuite judiciaire. Alors l'ALS a compté des partisans de toutes les confessions et surtout beaucoup de chiites, mais ce sont aujourd'hui principalement les chrétiens qui portent cette cause et qui trouvent quelques relais au sein de leur parti politique.
Ici c'est Ein Ebel. C'est un village chrétien. Des gens qui sont passés à Israël en 2000, l'année 2000. Durant le retrait des armées israéliennes. Cette région, c'est une région bénie, parce que Jésus-Christ a passé d'ici pour passer vers Cana de Galilée. Et maintenant, aujourd'hui, c'est le fait de Pentecôte. On a une tradition ici au village. Tous les gens passent dans la nature, dans la forêt, comme les apôtres.
Et donc là, c'est aujourd'hui. Donc là, on est vraiment dans une petite route au sud du Liban, avec les montagnes autour de nous. Et là, il y a énormément de voitures qui sont garées le long d'une petite route. C'est en fait la célébration de cette fête qui s'appelle Al-Ansala, c'est ça ?
Al-Ansala en arabe. C'est le Pentecôte.
Donc là, on arrive en voiture et sur notre droite, il y a dans la forêt énormément de gens, quelques centaines, qui sont assis sur des chaises en plastique avec des barbecues. C'est
bien toute la village se trouve ici.
Donc on va se garer.
Abou Salim, finançons un peu de sahafiye basme du foot Saouro. C'est la frontière. À peu près 10 km. C'est la montagne. Ici, c'est la frontière. C'est un grand thème. La plupart des gens ici ont des amis en Israël, même des parents, des frères, des sœurs.
Parce que là, tous les gens qu'on voit là, c'est des habitants des villages
oui,
chrétiens de la région.
De Ainebel. Cette village Ainebel.
Ah, qu'on
c'est l'église, sur... oui. C'est Joseph.
Joseph. يلا خذ وقتك
يلا شباب الحاجة
يلا نفتح تحت اوكي
يلا
خذ وقتك
اوا يلا
Je m'appelle Joseph Alak, je suis de Ain Ebel. Ma famille est avec les gens qui sont partis en Israël. Ils sont actuellement à Nahariya. C'est à deux pas d'ici, à 2 kilomètres de la frontière. Mon père était dans l'armée du Sud-Liban. S'il avait voulu rentrer ici, il aurait dû aller en prison. Les services de renseignement libanais nous ont toujours surveillés. Ils nous appellent, mènent des enquêtes, nous demandent si on parle avec nos familles. On leur répond que bien sûr, ça nous arrive. Si ma mère qui est en Israël m'appelle, qu'est-ce que je vais faire? Lui dire pourquoi tu m'appelles? Quoi qu'il arrive, j'ai besoin de parler avec ma mère. Mon père est mort l'année dernière, le jour de Noël. Il a eu un accident. Il est tombé dans le coma. Il y est resté pendant un mois. On en a informé les autorités ici au Liban. On leur a dit que mon père avait eu un accident et que donc j'allais communiquer avec ma famille sur WhatsApp parce que je voulais savoir ce qu'il s'était passé. Il était en danger. Ils m'ont répondu « Ok, c'est bien que tu nous as informés. » Quand mon père est mort, je les ai rappelés. Ils savaient que je devais être en contact avec ma mère, avec mon frère, pour voir comment on allait régler ça, comment on allait s'organiser pour ramener son corps. On a réussi à ramener son corps au bout de 2 semaines. On l'a fait rapatrier par la frontière à Nakoura, avec l'aide du Comité international de la Croix-Rouge. Et on l'a enterré ici, à Ain Ebel. 2 mois plus tard, on est tombé des nues. Les autorités m'ont informé que j'étais convoqué devant le tribunal militaire. Je devais comparaître parce que j'étais entré en contact avec ma famille.
Nous voici à présent dans le tribunal militaire de Beyrouth. Une centaine de personnes assistent à la comparution d'un proche. Certains sont poursuivis pour terrorisme, d'autres pour altercation avec l'armée. Mais on trouve aussi des cas de contact avec l'ennemi, des personnes accusées d'avoir envoyé un message de l'autre côté de la frontière. Aujourd'hui, 6 cas sont devant les juges.
Je suis poursuivi parce que j'ai parlé avec mon oncle. Il est en Palestine occupée. Je lui ai parlé peut-être 1 ou 2 fois sur un groupe WhatsApp. Les autorités ont donc ouvert une enquête et là, on est venu pour clore ce dossier. Pendant l'audience, les juges nous ont demandé pourquoi vous avez parlé avec lui. Qu'est-ce qu'il fait en Israël? Quelles sont ses activités? Quand on les appelle, c'est juste pour prendre leurs nouvelles. Et après, on nous convoque devant un tribunal.
Comment vous vous sentez aujourd'hui quand vous venez ici au tribunal? C'est quoi? C'est de la peur?
Non, c'est pas de la peur, mais on veut surtout en finir avec ça, clore ce dossier. C'est déshonorant pour moi et mon mari de se retrouver devant l'État, devant les militaires. C'est pas de la peur, mais maintenant, c'est bon, j'espère que c'est terminé.
Comme cette femme et sa famille, une petite centaine de dossiers ont été traités par le tribunal militaire l'an dernier. Hors micro, l'un des juges explique qu'après enquête, si ces personnes ne font en effet que parler à leurs proches, les poursuites sont abandonnées pour ce militaire. Les comparutions sont donc automatiques. Il ne fait ici qu'appliquer la loi. Elle interdit aux Libanais tout contact avec Israël. Il faut dire que 20 ans après la fin de l'occupation du Sud-Liban, l'État hébreu reste ici un ennemi à part. Les accrochages à la frontière sont récurrents. La guerre de l'été 2006 est dans toutes les têtes. 1200 civils avaient péri côté libanais. Autant d'éléments qui font de cette question des ex-collaborateurs et de leurs proches un sujet sensible. De l'autre côté de cette frontière, en Israël, justement, se trouveraient encore quelques milliers de Libanais. Depuis le Liban, seule 30 de prêtres et de sœurs peuvent leur rendre visite. Ils bénéficient d'un laissez-passer exceptionnel. Charbel Zraib a œuvré en Israël pendant 5 ans.
Je suis le prêtre de la paroisse Saint-Pierre et Paul, la libanaise maronite. Et aussi, j'étais le fils de l'archevêque maronite de la Terre Sainte. J'étais à Haïfa. Et donc Haïfa, c'est un peu le début du nord de la Terre Sainte, disons.
Quelle a été votre mission quand vous étiez là-bas de l'autre côté de la frontière?
Ma mission, elle est 100% spirituelle. Je prends soin de toute la communauté chrétienne libanaise là-bas. À part la messe chaque jour dans chaque communauté, je prends soin des jeunes, de leur cultiver sur la religion chrétienne. Et ma mission là-bas aussi, de les apprendre le libanais.
Si on prend l'exemple de ces jeunes, ce sont des Libanais, mais ils vont à l'école...
Hébraïque. Oui, ils passent dans des écoles officielles, là-bas. Et la... Oui.
Et la langue...
La langue primordiale, c'est l'hébreu. À part la langue, je les apprenne leur nationalité. Qui sont les Libanais? Comment ils vivent? Qui aillent la tête levée lorsqu'ils disent que nous sommes des Libanais?
Donc là, aujourd'hui, il est possible pour les Libanais de rentrer à condition d'accepter une éventuelle peine de prison. Les dépouilles peuvent aussi être rapatriées et enterrées au Liban avec l'aide du Comité international de la Croix-Rouge. Mais qu'est-ce qu'il en est des enfants de Libanais nés en Israël après l'an 2000?
Les enfants qui naissent dans la Terre Sainte sont ils ne prennent pas la nationalité libanaise, ils prennent directement la nationalité israélienne, on dit. Leurs parents aiment beaucoup les enregistrer au Liban, mais ils ne peuvent pas.
Il y a un mouvement aujourd'hui qui s'appelle Ha'on Yeljao, le droit au retour.
Ici au Liban.
Oui. Est-ce que, de ce que vous connaissez de la situation là-bas, les gens ont envie de revenir au Liban?
C'est une question de génération. Ceux qui sont entrés au début, les vieux, disons, la partie âgée, oui, elle aime être enterrée ici. Les jeunes, ils aiment savoir c'est quoi le Liban, d'où ils viennent leurs parents, mais ils disent on ne peut pas retourner définitivement au Liban parce que on travaille, on a étudié là-bas.
En Israël, oui.
Et ils ont pris leur diplôme là-bas, donc ils ont bien construit leur vie là-bas, c'est pour cela qu'ils ne peuvent pas venir. C'est juste pour la visite, ils disent.
Dans un Liban marqué par des années de guerre avec l'État hébreu, le cas de ces anciens alliés de l'ennemi israélien et de leur famille reste tabou. L'année dernière, le retour au Liban du responsable du centre de détention du Sud occupé est venu raviver les plaies d'un passé douloureux. Surnommé le boucher de Riyam, Amer Fahouri avait été condamné en son absence à 15 ans de prison pour collaboration avec l'ennemi, une peine qu'il n'a jamais effectuée. Ce citoyen libano-américain a finalement été exfiltré du Liban sous la pression de Washington. Une affaire qui interroge plus largement sur la définition même de la collaboration. Les habitants des villages occupés sont-ils prêts à voir revenir et à vivre aux côtés de ces anciens de l'ALS? Quelles sont les conditions d'un retour pour leur famille? Quel statut pour ces enfants nés en dehors du Liban? Autant de questions complexes et encore loin d'être réglées.
Reportage au Liban donc de Nicolas Feldman, réalisé fin de l'année dernière, un peu avant les 20 ans du retrait de l'armée israélienne du sud du Liban. Merci une nouvelle fois d'avoir été au rendez-vous de votre magazine de reportage. Retrouvez-nous comme toujours en podcast et sur ovio.be. Il me reste à vous souhaiter un excellent week-end avec nous sur la première. Les informations arrivent dans quelques instants.
Chacun ses statistiques.
C'est difficile à comparer les chiffres.
Chacun sa crédibilité.
Millions de masques arriveront.
Chacun ses conclusions.
On doit prolonger ces mesures.
Chacun son histoire. Le VIF Express est à l'écoute de tout et de chacun. Parce que la vérité ne vient pas que du centre, mais de partout. Chaque avis compte pour mieux comprendre le monde. Le VIF Express, pour ne rien vous cacher.
Nous sommes ravis,
vraiment ravis,
de vous voir à nouveau chez MediaMarkt. Nos employés sont heureux de vous accueillir,
plus que chaleureusement,
dans nos magasins. Nous mettons tout en œuvre pour que vous fassiez votre shopping en toute sécurité et en toute tranquillité.
C'est nickel.
MediaMarkt,
ça déchire.
Vous préférez quand même rester chez vous? Faites vos achats sur MediaMarkt.be.
Caroline, bah c'est un peu la collègue qu'on aimerait tous avoir.
En plus, elle a toujours le mot pour rire. C'est dingue comme elle parvient à nous donner la pêche.
Dans l'équipe, c'est un pilier. Elle connaît tout sur la vie de la boîte.
Et c'est plus qu'une collègue, c'est vraiment devenu une copine.
Ouais.
Bon, après, c'est vrai, c'est pas la dernière à faire la fête.
Ça.
Ce que vous ne savez pas, c'est que Caroline est non-voyante. Malheureusement, trop de personnes en situation de handicap sont encore victimes de discrimination au travail. Et si on changeait de regard sur le handicap et l'emploi? une initiative de la VIC avec le soutien de la Wallonie et de la COCOF.
Deleuze présente chez les Govart, on cuisine ensemble.
Tu peux faire un truc, papa ?
Non, j'ai coupé le poulet là, puis les légumes pour wok sont prédécoupés, donc.
Ok, bon.
Attends, si, tu peux mettre la table.
T'as rien de plus chouette à faire ?
Tu peux faire une chouette table.
Quoi ? Genre une nappe ?
Oui, voilà, avec une nappe.
Oh, papa !
Si, tu vas voir, c'est joli.
Cuisiner et manger ensemble tous les jours, c'est bon aussi pour le moral. Et c'est avantageux. Maintenant, chez Deleuze, le deuxième filet de poulet est à moitié prix. Deleuze, du côté de la vraie vie. Infos et conditions en magasin.
La première.
Météo.
Cet après-midi, nous allons avoir une alternance de nuages et d'éclaircies sur la plupart du pays, sauf sur la Lorraine belge et sur le littoral, où là, les éclaircies seront plus larges. Maximum aujourd'hui, 14 à 17 degrés. La nuit prochaine, le temps sera toujours sec, mais le ciel sera dégagé. Donc, les minima vont descendre entre 1 et 8 degrés. On pourra encore avoir un peu de gelée nocturne en Ardennes, mais ce serait normalement une des dernières nuits où on parlerait de gelée donc nocturne. Demain, dès le réveil, plein soleil. Après-midi, le ciel sera un peu plus nuageux, mais le temps va rester sec. Maxima demain, donc entre 15 et 19 degrés. La semaine prochaine s'annonce ensoleillée et estivale. Les maxima vont grimper de plus en plus de jour en jour pour atteindre, par exemple, 27 degrés par endroit